RFI, 6h30, à Paris, 5h30 en temps universel. Et tout de suite le journal. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour. Avec des initiatives diplomatiques à la une de cette édition, elles fusent de part et d'autre pour tenter d'apaiser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo après la percée opérée par le groupe armé du M23 et ses soutiens rwandais. Luanda, EAC, ONU, Washington, SADC, Bruxelles, Londres, Paris. Le ministre Barrot est à Kigali après un passage hier par Kinshasa. Rencontre d'une heure avec Félix Tshisekedi. La France qui par ailleurs n'a plus de soldats au Tchad. Les clés de la base d'Hadji Kossey ont été remises hier aux soldats tchadiens et ce matin c'est le président Mahamat Debi qui récupère officiellement les lieux. L'Ouganda déploie son dispositif d'urgence contre Ebola. Un infirmier est mort de cette fièvre hémorragique. Kampala trace immédiatement les cas contacts pour éviter à tout prix une flambée épidémique. Siam Ben Sedrine, hospitalisé depuis 5 jours en Tunisie, ses soutiens s'inquiètent vivement sur son état de santé. Elle est l'une des militantes les plus connues pour la justice post-Ben Ali, critique aussi du régime du président Kais Saied. Les États de l'Afrique australe réunis sous la bannière de la SADC se réunissent aujourd'hui au Zimbabwe pour évoquer la crise accrue dans l'est de la République démocratique du Congo, l'offensive éclair lancée par le M23 il y a une semaine. Le groupe armé appuyé par le Rwanda qui tient aujourd'hui de nombreux quartiers de Goma, chef-lieu provincial du Nord Kivu. La diplomatie qui s'active aussi côté Bruxelles. La Belgique demande à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre Kigali. Côté Londres, le Royaume-Uni pourrait suspendre ses programmes d'aide au Rwanda. Et côté Paris, puisque le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, rencontre ce matin Paul Kagame. Il était hier à Kinshasa pour un entretien avec Félix Tshisekedi. Alexandra Branjon, envoyée spéciale.
Une heure de discussion entre le président Tshisekedi et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Côté français, il s'agit de réitérer la position de Paris, à savoir la France condamne l'offensive du M23 et des forces rwandaises. Le M23 doit se retirer des territoires dont il a pris le contrôle et les forces rwandaises doivent quitter instamment le territoire congolais. Avec cette visite, Paris souhaite rappeler que la France est un allié stratégique de la RDC, ajoute une source diplomatique française, et qu'elle déploie tout son arsenal diplomatique pour trouver une solution à la crise dans l'est du pays. Côté congolais, on se dit satisfait de l'échange. Dans un communiqué, la présidence rappelle que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec un droit de veto et a apporté un soutien important à la RDC lors des deux dernières réunions urgentes de cet organe. Mais la RDC attend un peu plus d'action, précise le communiqué. Selon une source présidentielle congolaise, Kinshasa attend beaucoup de la France, notamment que Paris fasse pression pour obtenir des sanctions onusiennes contre Kigali, à défaut du retrait des troupes rwandaises de RDC. Alexandra Branjon, Kinshasa, RFI.
J'ajoute que les Nations Unies font part de leur inquiétude sur une situation qu'elles qualifient de volatile dans la province du Sud Kivu, voisine du Nord Kivu. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU parle d'informations crédibles sur l'avancée du M23 vers la ville de Bukavu. À mesure que les jours passent, se pose aussi la question de la couverture médiatique des événements. Vous vous souvenez peut-être que la presse congolaise s'était émue ces derniers mois de nouvelles consignes passées aux médias. Interdiction par exemple d'évoquer des attaques de groupes armés sans en avoir reçu de validation officielle. Hier, le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, convoquait les journalistes pour leur passer de nouvelles consignes de travail et des menaces de sanctions. Le cas échéant, Christian Bossembe, son président.
Il n'appartient pas à un média d'annoncer la prise d'une ville, c'est plutôt au gouvernement de l'annoncer. Et on a fait cette analyse avec tous les autres médias étrangers. On a été ferme, on leur a dit qu'il ne fallait pas franchir certaines limites que nous considérons comme une atteinte à notre souveraineté. Lorsque vous avez les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser puisque on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir, de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles. Parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait de sources référentielles officielles, je vais le fermer sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer.
Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en République démocratique du Congo.
N'Djamena, 100.2 FM.
Le drapeau bleu, jaune, rouge du Tchad flotte sur la base militaire d'Hadji Kossey. Il n'y a plus de militaires français dans le pays. Ils ont rendu les clés de cette base hier à leurs homologues tchadiens. Dans un peu plus de deux heures maintenant, une cérémonie présidée par le chef de l'État, Mahamat Debi, doit marquer la récupération officielle de ce camp. Le premier, le principal et le plus grand de ceux que la France avait établi au Tchad. 125 ans d'existence, barré d'un trait de plume en à peine deux mois et sans crier gare. Correspondant RFI Victor Moria.
Tout commence le 28 novembre dernier, lorsqu'à la surprise générale, le ministre des Affaires étrangères tchadien publie une déclaration rompant les accords de défense signés en 1976. Moins de deux semaines plus tard, les Mirage 2000, ces avions de combat, symboles du soutien militaire français au régime tchadien, décollent vers la France. Le message est clair, des deux côtés, on souhaite un désengagement rapide. Les 26 et 11 janvier suivants, les bases de Faya Largeau au nord et d'Abéché à l'est du pays sont rendues. Ne reste alors que la plus grande base française du pays, celle d'Hadji Kossey de N'Djamena. Les convois militaires se multiplient par la route vers le port de Douala au Cameroun, mais aussi par les airs. Une fois le millier de soldats et les dizaines de milliers de tonnes de matériel partis, Hadji Kossey est rétrocédé le 30 janvier, les clés rendues au chef d'état-major général des armées tchadiennes. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Au Soudan voisin, la guerre toujours impitoyable dans les différentes régions du pays. L'armée régulière d'Abdel Fattah al-Burhan revendique des prises autour de Khartoum, mais aussi dans l'état du Kordofan du Nord, en l'occurrence la ville stratégique d'Oum Rawaba, tandis que les forces de soutien rapide du général Hemeti semblent toujours concentrer leurs efforts sur El Fasher, la dernière capitale régionale du Darfour, qui ne soit pas entre leurs mains. Un hôpital de cette ville a encore été pris pour cible par des bombardements ces derniers jours. La justice du Bénin condamne lourdement Olivier Bocco, ex-proche du président Talon, ainsi que l'ancien ministre des Sports Osvaldo Mekki, 20 ans de réclusion criminelle pour avoir fomenté une tentative de coup d'État au mois de septembre dernier. Le procureur avait requis 10 ans contre l'ancien ministre et l'homme d'affaires. Un mandat d'arrêt international est lancé aussi contre le beau-frère d'Olivier Bocco, Roch Nyeri. Les trois co-accusés ont été acquittés. L'amende et les dommages et intérêts s'élèvent à 64 milliards et demi de francs CFA. Un peu moins de 100 millions d'euros. Les autorités sanitaires ougandaises annoncent la mort d'un jeune infirmier infecté par le virus Ebola. Plusieurs laboratoires ont confirmé qu'il s'agissait bien de la fièvre hémorragique. Kampala émet plusieurs mesures pour traiter le problème le plus vite possible et éviter que d'autres cas ne se répandent. Guillaume Thibault pour les détails.
Un dispositif d'urgence a été immédiatement déclenché par les autorités. Deux hôpitaux, celui de Kampala et de Mbale dans l'est du pays, sont donc mis en alerte pour prendre en charge tout nouveau cas suspect. Le patient, un infirmier de 32 ans, est décédé mercredi. Il est présenté comme le cas index, c'est-à-dire le premier touché par cette nouvelle épidémie d'Ebola. Toutes les personnes, 44 pour le moment, avec qui il a été en contact ces derniers jours, des membres de sa famille, des patients, des agents sanitaires, ont été placés à l'isolement et en observation pour voir si les premiers symptômes du virus Ebola apparaissent, fièvre et difficultés respiratoires notamment. Le ministère de la Santé, qui appelle tous les agents, du public comme du privé, à la plus grande vigilance, a mis en place un numéro d'appel d'urgence et indique dans son communiqué que les autorités contrôle totalement la situation.
Guillaume Thibault. Les défenseurs des droits de l'homme en Tunisie s'inquiètent ouvertement de la santé de Siham Ben Sedrine. Elle est l'une des figures de l'opposition à Zine El Abidine Ben Ali, tête de pont de l'instance qui avait fait la lumière sur une partie des crimes commis sous son régime. Mais critique aussi du président Kais Saied. Siham Ben Sedrine, septuagénaire, est hospitalisée. Elle a été admise en réanimation il y a 5 jours, mais toujours sous le régime de la détention provisoire, puisqu'elle est accusée d'avoir falsifié un rapport de l'instance Vérité et Dignité. Accusation contre lesquelles elle a entamé une grève de la faim il y a un peu plus de 2 semaines de cela. Pierre Firsion.
Pas de répit pour Siham Ben Sedrine. 5 jours après son admission au service de réanimation, suite à sa grève de la faim, sa détention provisoire a été prolongée de 4 mois. Un de ses avocats, Ayashi Amami, doit se contenter des quelques bribes d'informations que l'administration pénitentiaire veut bien laisser filtrer.
Elle est entrée dans cette grève pour déclarer qu'elle est innocente, qu'elle refuse sa détention. Tout ce que nous avons comme information, c'est qu'elle est sous perfusion et que son état de santé général est très mal.
À la tête de l'instance Vérité et Dignité, mise en place après la Révolution pour faire la lumière sur les exactions commises pendant les années de dictature, Siham Ben Sedrine est accusé d'avoir falsifié un rapport de l'organisation.
Le rapport qui est sorti après 4 années de travail de cette instance a gêné les différents réseaux mafieux et d'oppression du régime de Ben Ali. Elle croit que ce sont ces réseaux qui sont derrière ce qui se passe maintenant pour elle. Ils sont en train de prendre leur revanche parce qu'elle a dévoilé à l'opinion publique les atrocités de l'ancien régime. C'est ça l'explication de Sihem elle-même.
Poursuivie dans 5 autres affaires, tout en lien avec son mandat à la tête de l'instance Vérité et Dignité, Sihem Ben Sedrine peut encourir des années de prison.
Pierre Firsion, le Cameroun, enfin, la guerre de décolonisation menée par la France et le rapport aux yeux du monde. Après que la commission présidée par Karine Ramondi a remis son rapport au président français Emmanuel Macron et camerounais Paul Biya, ces travaux sont désormais accessibles à quiconque souhaite les lire, et cela sur un site internet dédié. Reste aussi à savoir ce qui va se passer désormais. Les auteurs de ce rapport recommandent des excuses officielles de la part de Paris ou encore un enseignement clair de cette histoire aux écoliers français. Quoi qu'il advienne, certains estiment que ce rapport officiel demandé par un chef d'État va servir de point de non-retour. Plus personne ne pourra dire qu'on ne savait pas ou que ça n'a pas existé. C'est en tout cas l'avis de Thomas Deltombe. Il est l'un des auteurs du livre Cameroun, paru il y a déjà près de 15 ans.
La commission présidée par Karine Ramondi dit bien que la France a mené une guerre. Donc ça, c'est important pour nous parce qu'effectivement, on avait avancé cette idée et elle est validée par 14 historiens et historiennes. Donc ça, c'est quand même une satisfaction. La question, elle n'est pas tant ce qu'il y a dans le rapport que l'existence même de ce rapport. C'est-à-dire que ce rapport amène à une nouvelle étape. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Vous vous souvenez que François Fillon, quand il était Premier ministre en 2009, avait parlé de cette affaire en disant que c'était de la pure invention. Bon, bah maintenant, ce type de déclaration un peu stupide deviennent impossibles. C'est-à-dire, voilà, on peut plus nier les faits. D'autant qu'en plus, tout ça a été étayé par des nouveaux documents, puisque la commission a eu accès à des nouveaux documents pour lesquels on n'avait pas eu les dérogations. Donc, tout ce qu'on avait raconté, de toute façon, expliqué, étayé et solidifié, en fait, par le rapport. Donc, c'est ça, en fait, l'apport principal de ce rapport.
Thomas Deltombe, propos recueillis par Florence Maurice. Il est l'un des 3 auteurs, avec Manuel Domergue et Jacob Tatitsa, du livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, 1948-1971, paru aux éditions de La Découverte en 2011. J'ajoute enfin que Karine Ramondi, qui a présidé cette commission de 14 historiens entre la France et le Cameroun pour faire la lumière sur cette guerre de décolonisation, était l'invitée Afrique de RFI ces derniers jours. Vous retrouvez son entretien sur notre application dédiée RFI Pure Radio. Vous écoutez la Radio du Monde et à Yaoundé, il est 6h43. L'information revient et continue avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Edouard Dupénoit, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, c'est